Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'humanité va disparaître à moyen terme si on n'est pas capable de se reproduire?
Mathématiquement, oui. Puis moi, j'arrête de travailler. Et si les gens autour de moi arrêtent de travailler, il passera quelque chose.
Et qui paiera la retraite? Vous gagnez bien, qui travaille pour vous payer votre retraite.
Mais il n'y aura personne.
Bonjour, bienvenue sur Open Box TV, l'émission de géopolitique d'Alain Juillet. Et merci de nous soutenir sur Tipeee pour maintenir cette ligne éditoriale indépendante. Vous pouvez aussi devenir membre de notre chaîne et avoir accès à du contenu exclusif et ne plus avoir à supporter les coupures publicitaires de YouTube. Alain Juillet, bonjour.
Bonjour Claude.
Aujourd'hui, une émission qui a une importance capitale, on n'en parle jamais, personne n'en parle, c'est la démographie mondiale. Et souvent, on entend de tout à ce sujet. Est-ce que c'est une bombe à retardement? Bien évidemment, on parle de démographie mondiale, l'Afrique, l'Asie, la Chine, l'Europe, la France, et avec une incidence peut-être sur le devenir d'un certain nombre d'aspects économiques, et en particulier les retraites. On en parle beaucoup en France. Alors, pour cela, nous avons invité une personnalité, Monsieur Yves Montenay. On va pouvoir développer avec lui un certain nombre de sujets très importants sur la démographie.
Alors, on l'évoque, nous, dans nos émissions, on l'a évoqué quand on parlait, par exemple, de l'Afrique, on comparait le Niger, où les femmes ont 6-7 enfants, avec des pays où les femmes ont 2-3 enfants. Ben, évidemment, le problème n'est pas le même. Dans un pays, toute la croissance économique, elle est mangée par la nécessité de nourrir les enfants et de les former, alors que dans l'autre, eh bien, on peut gérer, et on l'avait vu sur la Chine en particulier, on gère le fait qu'ayant peu d'enfants, eh bien, on va pouvoir consacrer plus de moyens à l'économie. Donc il y a plein d'impacts, si vous voulez, mais c'est vrai qu'on ne regarde pas. On ne regarde pas, on ne va pas jusqu'au bout des choses. Alors, faisant ce constat, je me suis dit que ce serait intéressant, effectivement, qu'on reçoive un vrai démographe, quelqu'un qui est passionné, qui connaît la démographie, pour nous expliquer un certain nombre de choses, parce que pour nos auditeurs, je pense que ça va leur ouvrir les yeux. Merci Yves Montenay d'être venu partager vos connaissances avec nous. Je voudrais rappeler quelque chose, moi, qui m'avait beaucoup, beaucoup intéressé à l'époque, et que peu de gens avaient compris. Quand Mme Merkel, à l'époque Angela Merkel était chancelière allemande, elle avait constaté que l'Allemagne avait un taux de reproduction, un taux de fécondité, comme on dit maintenant, qui était nettement inférieur à 2, c'est-à-dire qu'on ne renouvelait pas la population allemande, on ne la prolongeait pas, on ne la stabilisait pas, elle dégringolait. Et d'ailleurs, on pourra certainement en parler parce qu'aujourd'hui, elle dégringole encore plus. C'est une catastrophe. Et alors, Merkel s'était dit, mais comment faire pour que notre pays, si je vois les projections, notre pays sera moins peuplé que la France dans 30 ans? C'est pas possible. On peut pas, nous, la première puissance européenne, on peut pas devenir la deuxième au niveau population. Donc, comment on peut faire? Elle avait eu cette idée qui lui paraissait géniale. Elle a ouvert les frontières aux travailleurs turcs. Vous avez vu les résultats sur ce qui s'est passé en Allemagne. Donc, si vous voulez, décision qui était logique sur le plan de une décision possible pour compenser la baisse démographique, mais qui s'est révélée catastrophique parce qu'elle n'avait pas été préparée. Et je crois que c'est ça. La démographie, ça nous oblige à anticiper. Comment on sera demain? Quel sera le format des pays demain? Comment on va être? Quel sera le format de la population? Et à partir de ce moment-là, ben, comment on gère pour essayer de répondre au mieux à ce qui va se passer? Alors, j'étais peut-être un peu long dans mon introduction, mais parce que je voulais sensibiliser à ces problèmes-là. Et la première question, bien sûr, qu'on pose à un démographe, c'est: tout le monde nous dit, alors la population du globe monte à toute vitesse, on était 2 milliards, on ne sait pas, entre 1 milliard et demi et 2 milliards et demi il y a 100 ans, on est 7 milliards et demi d'après ce qu'on dit aujourd'hui, et tout le monde nous dit que ça va continuer à monter. Alors on passera les 10 milliards, d'après ce que disent certains en tout cas, hein, on passera les 10 milliards à la fin du siècle.
Chez les spécialistes, on n'ose plus parler des 10 milliards. Et on pense que la population mondiale va commencer à diminuer bientôt. Ah, alors, ça dépend.
C'est plutôt une bonne nouvelle.
Alors, ça dépend. Mmh. C'est pas sûr du tout que ce soit une bonne nouvelle.
Ah.
Et parce que, en fait, depuis longtemps, je disais, je n'étais pas le seul, bien sûr, que leur population semblait augmenter parce que le nombre de vieux augmentait, mais que ça cachait la diminution du nombre de jeunes. Et comme les vieux finiront un jour par mourir, on se retrouvera avec moins de jeunes. En gros, c'est ça. Donc, en gros, la population du monde, on va voir continent par continent, mais la population du monde diminue soit directement chaque année, c'est le cas de la Chine, c'était le cas de la France l'an dernier, non, hors immigration. Et c'est le cas de beaucoup de pays, et c'est le cas du Japon depuis longtemps, et les endroits où la population augmente encore, c'est l'Afrique subsaharienne.
C'est ça, c'est l'Afrique qui monte. Il va encore monter beaucoup, d'après les prévisions. Alors,
énormément. Les Africains qui étaient très, très peu nombreux au début de la colonisation se sont multipliés pour différentes raisons qui tiennent soit à la mise en ordre coloniale, mise en ordre hygiénique, sécurité,
oui, c'est ça, il y a la santé. On a quand même, la colonisation a apporté, au niveau des conditions de santé, une amélioration très nette.
Absolument.
Du coup, un développement de la population.
Et ensuite, l'éducation ayant été faite, ça continue après. Par exemple, le fait de faire bouillir l'eau au lieu de prendre l'eau du ruisseau, c'est tout bête. Et mais ça a été introduit par la colonisation et ça a continué à se répandre après. Donc, la mortalité a beaucoup diminué. Il n'était plus nécessaire d'avoir 8 enfants comme si la moyenne naturelle dans tous les pays du monde, quand on remonte de quelques siècles en Europe, ou aujourd'hui dans certains pays, c'est le nombre normal.
Oui, c'est ça. Moi, je me souviens au Moyen-Âge français, quand on lit les livres, effectivement, ils avaient 7-8 enfants. D'ailleurs, les femmes, un certain nombre de femmes mouraient en couche parce qu'elles avaient eu beaucoup d'enfants et elles étaient évidemment très fatiguées. Mais le problème, c'était que sur les 7-8 enfants, il en survivait que 3, 2 ou 3.
Absolument.
Parce que les autres mouraient de maladies, de problèmes divers que maintenant nous soignons.
Absolument.
Ce qui change complètement les règles du jeu.
Et c'est pour ça que dans les pays africains où il y a 6 à 8 enfants par femme, ils meurent moins, ils meurent encore trop, mais ils meurent moins, et donc la population augmente extrêmement vite.
C'est ça.
Cela dit, c'est pas cela.
On est encore à une bascule. On est à une espèce de bascule. Ils font encore beaucoup d'enfants, mais la population meurt moins. Donc, évidemment, ça fait monter très vite.
Ça va très vite. Ça peut être un doublement à chaque génération.
C'est ça.
Une génération, c'est 15 ou 20 ans, contrairement à l'Europe, où c'est plutôt 30 ans, voire 35 ans. Et donc, ça part extrêmement vite. Heureusement, dans une partie de l'Afrique, donc la population s'embourgeoise ou s'urbanise, prend le terme que l'on veut, et le nombre d'enfants baisse à 4, 3, quelquefois 2,5. Donc, il y a une évolution qui est en cours, mais elle ne touche pas, je dirais, le Sahel ou les endroits éloignés, où il y a d'autres pressions religieuses, traditionnelles, etc. Et là, j'ai eu l'occasion de discuter avec les Africaines sur ce sujet. Et donc, la population globalement, mondialement, diminue ou va diminuer. Et c'est imminent, ce sera dans 5 ans ou dans 10 ans. On verra la chute.
Ah oui, donc oui, ça va aller beaucoup plus vite que prévu. Alors, beaucoup plus vite que prévu.
Et ça ira beaucoup plus vite, parce que tout ce qui est population, c'est exponentiel. Exponentiel vers le haut ou exponentiel vers le bas. C'est-à-dire que ce sont des intérêts composés.
C'est ça.
Et donc, voilà. Donc, on est dans une situation dont le monde prend petit à petit conscience. Mais j'ai encore beaucoup d'amis qui me disent moins de population, tant mieux pour la planète. Ce n'est plus du tout la question.
La jeunesse meurt moins jeune, si on peut dire, puisqu'on les soigne, on est mieux soignés, on vit dans un environnement moins dur, enfin, il y a beaucoup de choses. Mais alors, il y a par contre les vieux, ils vivent de plus en plus longtemps.
Ils vivent de plus en plus longtemps. Alors, premièrement, ça nous ramènerait, si on a le temps, au problème des retraites.
Oui.
Puisqu'il y a de plus en plus de vieux et de moins en moins de jeunes. Mais, j'allais dire, au point de vue plus d'organisation, si tout le monde s'arrêtait de travailler à 60 ou 65 ans, des jeunes ne suffiraient pas pour s'en occuper.
Alors, sauf si on tue les vieux.
Sauf si on tue les vieux, et je crois que c'est une tentation chez certains.
Ah oui, parce que c'est ça, parce que la poussée d'euthanasique, c'est encouragé, indiscutablement, c'est encouragé de faire disparaître les gens plus jeunes, si je peux dire, relativement plus jeune, et parce que ça pose moins de problèmes, mais ça fait des économies.
Absolument, et des économies très importantes, puisque en fin de vie, les gens en général dépensent beaucoup plus qu'ils n'ont cotisé. C'est-à-dire que quand vous êtes jeune et jusqu'à un âge relativement avancé, vous cotisez plus que vous ne coûtez la sécurité sociale, et puis brusquement, ça s'inverse, et en fin de vie, on dépense énormément par rapport à toutes nos cotisations passées.
Donc, ça, vous savez, vous savez ça mieux que moi. J'avais même lu par des spécialistes. Hein. Évidemment, c'est effrayant quand on voit ça, mais c'était des spécialistes, des techniciens, et qui disaient, mais dans le fond, hein, on devrait, à partir d'un certain âge, compte tenu de l'augmentation des coûts de santé que ça représente, hein, pour ces gens-là, on ne devrait accorder des aides qu'à ceux qui sont productifs pour la société, c'est-à-dire qui apportent quelque chose. Donc on revient, il faut tuer tous les autres. Hein. C'est effrayant, mais il y a des gens qui l'ont écrit.
Mmh. Ouais, c'est une tentation. Alors on prend les cas les plus patents, c'est-à-dire des gens qui sont un état d'égume ou qui souffrent beaucoup.
Oui.
Mais je crains qu'on élargisse petit à petit.
Mais c'est ça. Au départ, on dit que c'est uniquement pour ceux qui sont en soins palliatifs.
Oui.
Mais après, on dit dans le fond, on dérive. On dérive facilement.
Il y a des vieux qui n'ont pas eu d'enfants qui se sentent inutiles.
Exactement.
Et qui seront peut-être les premiers à réclamer d'en sortir.
Oui.
Donc là, on passe dans une dimension philosophique du problème. Là. C'est un vaste débat.
Oui, mais c'est intéressant. Parce
oui, c'est sûr.
Ça veut dire que dans le problème démographique, on vient d'évoquer le problème des jeunes et on faisait beaucoup d'enfants. Et puis, évidemment, avec l'amélioration des conditions de vie des gens progressivement, ben, on revient à un niveau et l'équilibre de 2,5. Mais on va y revenir d'ailleurs parce qu'il y a le problème de ceux qui en ont moins. Et puis, il y a les vieux, et les vieux, ça pose aussi problème, comme vous le disiez. Et là, on voit aujourd'hui des tentations de réduire la vieillesse, sauf pour... Là, je prends les gens du numérique qui vous disent, pour certains, nous, on va changer tous les organes, on va tout changer, et on sera pratiquement éternel. Quoi. En gros, c'est ça. Mais eux, pas les autres. Hein.
Oui, je suis un peu sceptique pour l'instant. Ouais,
moi aussi. Mais
à long terme, je ne sais pas.
Mais ils le disent, les gens du numérique... Les gens de Zuckerberg, de Bezos et des autres le disent bien, disent « mais nous, on est parti pour... »
Il y a déjà des petites choses. On a des yeux artificiels, on a des dents artificielles, on a un cerveau artificiel, on a des vis un peu partout dans le corps. Ça commence.
Il y a aussi un problème, c'est qu'on parlait tout à l'heure de taux de fécondité des femmes qui était très important quand les conditions de vie étaient très difficiles et qu'il y avait beaucoup d'enfants qui mouraient dans leur jeunesse. La logique, c'est d'arriver à un peu plus de 2, puisque 2, c'est le renouvellement de l'espèce, donc on devrait être à 2, 2,5. Et puis, on s'aperçoit qu'il y a des pays, je prends l'Allemagne par exemple, on est à moins de 1, parce que les femmes ne veulent plus faire d'enfants.
Absolument.
Alors, soit on sous-traite à d'autres de faire des enfants, enfin, c'est une solution palliative et temporaire, soit on est en train de précipiter la chute des pays.
Absolument. Et les gens ne se rendent pas compte d'un phénomène très simple, qui est il y a combien de parents ? Et on s'aperçoit, si on découpe les pyramides des âges en morceaux, on s'aperçoit qu'il y a de moins en moins de parents et beaucoup moins d'enfants qu'il n'y a de parents.
Oui.
Autrement dit, à chaque génération, bon, mettons 35 ans en Occident et mettons 15-20 ans en Afrique, à chaque génération, soit ça augmente exponentiellement, donc l'enfant est important, soit ça diminue, et s'il y avait un enfant par femme, le nombre de parents serait divisé par 2 à chaque génération. Et il y a des pays qui sont bien en dessous d'eux, à commencer par la Corée. Donc, on va vers des diminutions extrêmement rapides et surtout déséquilibrantes. C'est-à-dire qu'il y aura déjà une décroissance de l'ensemble, mais en plus, une polarisation vers le haut de la pyramide, c'est-à-dire que la pyramide sera surtout composée de vieux. Alors, bon, les vieux, ils sont moins vieux qu'avant, ils peuvent travailler plus longtemps.
Vous venez de citer la Corée, justement. C'est un cas emblématique. Le problème de la Corée du Sud, je précise, parce que la Corée du Nord fait encore beaucoup d'enfants. Et dans la Corée du Sud, aujourd'hui, c'est un pays qui est quand même une des grandes puissances mondiales, qui a fait un développement extraordinaire, mais c'est un pays qui est condamné à mort, et assez rapidement, d'après ce que j'ai vu, s'il continue dans cette voie, c'est-à-dire n'ayant pas suffisamment d'enfants pour pouvoir continuer, la Corée va disparaître.
Absolument. Alors, le gouvernement en est parfaitement conscient, fait des campagnes à la télévision, ça ne marche pas, d'une part parce que les gens s'accrochent à ces dépenses par enfant. On a tellement misé sur le premier enfant qu'on ne peut pas en prendre un second au même prix.
Oui.
Et deuxièmement, parce que la Corée est à une situation où la femme passe, elle a une attitude traditionnelle, et une attitude moins traditionnelle, c'est-à-dire faire comme un homme, travailler.
Gagner sa vie et vivre comme un homme.
Et de plus, urbanisation, c'est-à-dire tout le monde vit en ville. En ville, on ne peut pas bricoler une pièce de plus pour un enfant. En ville, on est obligé de payer un minimum pour la scolarité, ne serait-ce que les fournitures, et quelquefois beaucoup plus. Et surtout dans le cas de la Corée, où on paye des précepteurs. Donc, tous ces phénomènes se conjuguent pour faire que la Corée devrait disparaître. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent d'autoriser un peu d'immigration. Et je crois que c'est 450 000 par an, mais je peux me tromper. Ouais. Et elle viendra d'où? Alors, le pays, théoriquement, le moins différent, ils sont tous différents, bien sûr, c'est les Philippines, où les gens sont chrétiens, comme une partie des Coréens. Une partie pas négligeable des Coréens. Ouais. Ils sont catholiques ou protestants, ils sont bouddhistes aussi. Et donc, c'est le pays où, logiquement, mais est-ce que la vie n'est pas toujours logique, et d'où logiquement devraient venir des immigrants. Les Philippins, ils sont comme tout le monde, ils ont un nombre d'enfants qui diminue, mais ils sont quand même, ils se considèrent comme encore surpeuplés.
On parlait donc du fait que ces femmes ne font moins d'enfants, mais il y a des raisons sociales, sociétales pour certains pays. On parlait de l'Allemagne tout à l'heure, la Corée, le Japon aussi. Ces trois pays ont un élément en commun, c'est-à-dire que quand une femme fait un enfant, elle ne peut plus travailler. C'est pas particulièrement bien vu dans la société qu'une femme qui a des enfants puisse travailler. Ce n'est pas le cas en France. Et avec Alain Julien, on connaît bien par exemple le Japon. Au Japon, une femme qui a des enfants ne travaille plus. Et là, la France a peut-être un point fort, c'est-à-dire qu'on a mis depuis des années, depuis 50 ans, une politique d'accompagnement où les enfants peuvent aller à la crèche, les femmes peuvent travailler sans problème, ce qui fait qu'on a jusqu'à maintenant maintenu un certain niveau d'enfants.
Tout à fait, c'était clair depuis les décisions de 1945, et même un petit peu avant, mais bon, elles ont été cachées par la guerre, et en France, le baby-boom a été plus important à l'étranger, et la baisse de la fécondité est arrivée beaucoup plus tard. Donc, c'est un phénomène tout à fait important. Alors, il y a des petites illustrations comme les crèches d'entreprise. À mon avis, ce qui serait symboliquement fort, c'est qu'une allocation dès le premier enfant. Ce n'est pas le cas en ce moment. Ouais. Je crois que ça frapperait les gens et ce serait une bonne formule.
Je crois même que dans un certain nombre de partis politiques en France, il y a dans leur programme le fait de donner 100 euros par mois.
Ouais, mais ce n'est pas facile, parce que regardez les Russes, par exemple, Poutine qui souffre aussi. La Russie est en train, je crois que là vous le confirmerez, est en train de baisser au niveau population. Et Poutine a dit, on va lancer une politique de vraiment pour faire des enfants. Ils ont une vraie politique de natalité. Ils ont beaucoup de mal, parce que les Russes, elles sont pas, les couples russes, ça évolue pas beaucoup.
Alors dans le monde entier, toutes les tentatives d'augmenter la fécondité, ont raté. La France est une exception relative.
Parce que ça commence quand même, en dehors de l'immigration, et vous l'avez rappelé, la France tombe.
La France, depuis, en gros depuis le Covid, est tombée de 2, quelque chose, moins de 2,1, entre 2 et 2,1.
Enfin, ça
elle continue. Est tombée à 1,60.
Donc là, la population baisse, et le nombre de gens baisse.
Alors, le nombre de décès a dépassé le nombre de naissances et la population n'augmente plus que par l'immigration. Il ne faut pas oublier qu'il y a une émigration assez forte en France.
Oui.
On ne sait pas la mesurer parce que quand vous quittez la France, vous ne dites pas si vous la quittez pour un mois ou pour 10 ans, mais les flux sortants sont importants et donc l'immigration, d'un point de vue purement mathématique, l'immigration est largement concurrencée par l'émigration. Et nous ne sommes pas les seuls. Les Suédois, les Allemands, les Britanniques sont pareils.
Et de la démographie, c'est quand même un formidable moyen pour anticiper ce qui va se passer, puisque vous le dites et vous montrez dans les courbes qu'on sait très bien, à peu de choses près, on connaît l'évolution.
Oui.
Donc, on peut à partir de là se dire, moi je vais anticiper pour aller plus loin. Pour donner un exemple pour nos auditeurs, les Chinois, par exemple, sont en baisse démographique prouvée. Hein, et nous, on nous dit qu'ils sont stables, ce n'est pas vrai. On sait que ça baisse, et même beaucoup. Parce que plus la population monte en niveau, comme vous l'avez dit, plus elle s'urbanise et moins elle a d'enfants. Ça, c'est... Et puis, il y a moins de morts aussi. Hein. Il faut... En Chine, la santé est quand même nettement améliorée par rapport à l'époque où ils souffraient de famine et autres, où là, c'était catastrophique pour la jeunesse. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que les Chinois qui savent qu'ils vont manquer de main-d'œuvre, puisqu'il y aura moins de Chinois, alors ils ont fait un choix incroyable, mais ils anticipent, ils ont développé la robotique à un niveau inconnu dans le reste du monde.
Absolument. Absolument. Alors, est-ce que ça suffira ? Et je n'en sais rien, je ne suis pas un prophète.
Bien sûr, oui.
Plutôt un mathématicien. Et dans quelle mesure, alors dans certains métiers, bien sûr, est-ce que ça ira jusqu'au service des vieux, pour parler de ce qui va craquer en premier ? Ce qui va craquer en premier dans le monde, c'est le service des vieux. Et est-ce que vous aurez un robot humanoïde qui viendra vous habiller, vous déshabiller ? Vous savez que les robots, ça fait beaucoup de choses aujourd'hui, mais ils ne savent pas imiter une main.
Oui.
Et tous les gens d'informatique que je connais disent « on en est loin ». On en est loin. La main, c'est un outil extraordinaire et qui a une idée de la température, a une idée du toucher, de la pression, de la rugosité ou pas de la rugosité. On ne sait pas encore faire ça et on en est loin.
D'accord.
Donc, il y aura sûrement un petit robot qui viendra vous apporter une tasse de thé, il y aura sûrement un petit robot qui viendra vous apporter des médicaments. Est-ce que ça ira plus loin un jour, mais je ne sais pas quand.
C'est ça. Donc, pour le service à la personne, on n'est pas encore totalement prêt. Par contre, pour les usines, on arrive à avoir des usines robotisées à 99%. Hein.
Absolument.
En Chine, maintenant, c'est des usines sans ouvriers. 24 heures sur 24. Il n'y a pas de grève, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de maladie, il n'y a rien.
Absolument.
Ça a des conséquences. Dans le fond, ça permet de s'adapter. Parce que tout le monde s'inquiète actuellement, avec raison, en disant, mais il y a certains métiers qui disparaissent. Qu'est-ce qu'on va devenir ? Comment les gens qui faisaient ces métiers-là vont pouvoir être récupérés ? Dans le fond, la baisse de la natalité peut nous aider dans ce cas-là à résoudre
Je ne suis pas du tout inquiet des changements techniques. Parce que je regarde le passé, je suis un peu historien, et dans le passé, il y a des métiers qui disparaissent sans arrêt. Les maréchaux ferrants, où est-ce qu'ils sont ? Bon. Les agriculteurs, on se plaint qu'ils ont telle et telle difficulté. Ils étaient 80% ou 90% de la population sous Louis XV, et maintenant ils sont 2-3%.
Ouais, c'est ça.
Donc toute la masse de la population française, elle avait autre chose. Elle a été professeur, médecin, infirmière, dans un premier temps ouvrier d'usine, mais c'est fini. Et les gens font toujours autre chose. Pourquoi ? Parce que si le gain de productivité est vraiment réel et économique, il y a de l'argent, ça produit de l'argent, et cet argent va quelque part. Il va quelque part, et avec un temps d'adaptation plus ou moins long, il ne va pas forcément dans le même pays, par contre. Mais au bout d'un certain temps, les gens qui ont des besoins infinis expriment leurs besoins, et l'argent est là, et on a plus de profs, on reste plus longtemps à l'école, on a plus d'infirmières, etc., etc.
Les gens, ils vivent dans un environnement qui est évidemment de plus en plus agréable, en général. Hein, et dans lequel on prend aussi de mauvaises habitudes, ou de bonnes habitudes, enfin je ne sais pas comment on peut le dire. On ne veut pas travailler les week-ends, on veut prendre un maximum de vacances, on veut faire... Et tout ça, évidemment, ça crée des conditions de travail très différentes, mais qui évoluent dans cet environnement.
Tout à fait. Okay. Alors les anciens... le déplore, disons, voir arriver des jeunes, et puis ils ne travaillent pas de la même façon. Mais surtout, des gens ne mesurent pas que leur niveau de vie, c'est la production des autres. C'est la leur et celle des autres. C'est les autres qui échangent, pas échangent, et qui donnent lieu à des dettes ou pas de dettes, c'est déjà des problèmes relativement seconds. Mais on ne vit que du travail des autres.
Oui.
Et les gens oublient ça. Donc si moi j'arrête de travailler, et si les gens autour de moi arrêtent de travailler, il passera quelque chose. J'aurai une belle retraite avec l'argent, etc., etc. Je peux partir
avec mon emploi pour 5 ans. Si vous gagnez bien, qui travaille pour vous payer votre retraite.
Mais il n'y aura personne. La retraite, vous serez obligé de soigner vos parents. Vous ne pourrez pas aller au cinéma, il n'y aura pas d'ouvreuse. Vous ne pourrez pas aller acheter du pain, il n'y aura pas de boulanger. Vous serez bloqué à votre 15e étage et vous ne pourrez pas descendre parce qu'il n'y a plus d'ascensoriste. Donc, le niveau de vie, c'est le travail des autres. Là, je sors un peu de démographie, mais c'est conviction vécue.
Aujourd'hui, il y a un bouleversement économique et politique au niveau mondial, avec la recréation, je dirais, des empires, avec les États-Unis et avec la Chine. Et alors, l'Europe, est-ce qu'on peut, sur le plan démographique, l'Europe, elle est en bonne santé ou elle est en train de s'effondrer ?
Alors, l'Europe est en très mauvaise santé démographique. Elle tient plus ou moins avec l'immigration. Et l'immigration en Europe, on le constate moins en France qu'ailleurs, mais elle est d'abord européenne, c'est-à-dire du Kosovo, de Croatie, de Serbie, de Roumanie, de Grèce, d'Italie, puisque c'est l'Italie qui nourrit l'Allemagne, en gros, hein, je simplifie. Oui. Donc l'Europe est assez atteinte. La France a été atteinte plus tard et moins, pour l'instant. Mais la plupart des pays d'Europe plongent. Alors, pour ce qui concerne l'immigration, les Turcs sont là depuis longtemps. Donc, il y a de plus en plus de naturalisation de gens qui choisissent d'être allemands. D'ailleurs, il y en a un qui vient d'être élu à la tête du Bade-Württemberg.
Oui, absolument, oui. Il y a un Turc qui a été élu, oui.
Et les Syriens, nous, on se plaint quelquefois d'une qualification imparfaite des Maghrébins. Ils parlent un peu français, quelquefois très bien, et ils connaissent l'alphabet latin. Les Syriens débarquent en Allemagne, ils ne connaissent même pas l'alphabet latin, ils ne peuvent même pas lire des enseignes.
Oui, exactement.
Alors, qu'elle a dit, wir schaffen das, c'est-à-dire tout le monde va s'y mettre. Alors, les églises, des associations, des partis politiques, des municipalités, tout le monde s'y est mis.
On fait le lien entre la démographie et la puissance économique, industrielle, la puissance générale d'un pays. Est-ce qu'on est toujours dans ce rapport de force ? C'est-à-dire un pays qui a beaucoup de population est un pays fort et puissant ?
Alors, oui, mais pas mécaniquement, si j'ose dire. Et j'ai un exemple qui m'obsède un peu. Quand nous avons aidé les Américains à être indépendants, ils étaient 2 et quelques millions. Nous, on était 26 millions. On était le grand frère, on venait les aider. Aujourd'hui, les grands frères, ce n'est plus nous. Aujourd'hui, nous avons 68 millions d'habitants, mettons, et eux, ils ont dépassé les 320-330. Donc, les grands frères, maintenant, c'est eux. Donc, à la longue, ça change quand même les équilibres. Alors, je dis à la longue, or, l'homme politique se moque de à la longue. Et c'est une déformation professionnelle de démographe, de dire à la longue. Et enfin, c'est, dans le cas de France-Amérique, c'est clair. Mais dans le cas de France-Algérie ou de France-Égypte, c'est très clair aussi. Quand Napoléon est arrivé en Égypte, comme c'est un scientifique, il a dit tout de suite, on va recenser, on a trouvé 2 millions et quelques. Aujourd'hui, ils sont 103. Donc, ils étaient 10 fois moins peuplés que la France, un peu comme l'Amérique, 10 fois moins peuplés, et ils se retrouvent à nettement plus peuplés. Les rapports ne sont forcément pas les mêmes. Même si l'Égypte est un pays assez pauvre, qui est imparfait de gestion, enfin, nous aussi. Et donc, même avec des correctifs, c'est quand même une différence importante.
Vous dites en définitive, à part l'Afrique et quelques autres pays, mais la plupart des pays du monde sont maintenant dans une tendance inversée, c'est-à-dire qu'on fait moins d'enfants que la génération précédente. Et c'est un phénomène qui semble international et qui va généraliser, parce que l'Afrique dont on parle aujourd'hui, elle fait beaucoup d'enfants, mais on voit bien en Afrique que dans les pays qui se développent, ça réduit. Donc on sera sur la même tendance. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'humanité va disparaître à moyen terme si on n'est pas capable de se reproduire ?
Alors, mathématiquement, oui.
C'est intéressant quand même.
Je ne suis pas prophète au-delà de 30 ans, et même à 30 ans, je ne suis qu'un vraiment. Et je veux dire, on peut faire des statistiques et on peut bien prévoir jusqu'à une trentaine d'années en avance en démographie.
Ouais.
On ne peut absolument pas le prévoir en géopolitique.
Oui.
Il suffit d'un changement de gouvernement quelque part.
Okay, tout change.
Est-ce que l'humanité va disparaître ? Le terme est trop long pour le dire.
En tout cas, ça peut complètement changer les choses. Je compare l'Inde et la Chine, par exemple. L'Inde se continue à faire des enfants. Hein, là, il n'y a pas a priori.
Et ils viennent de descendre à 2 quand même.
Ah, ils descendent à 2 quand même. Ah, ça commence à réduire.
Oui. Et ils seront, si ça continue, ils seront en dessous de 2 bientôt. Mais comme ils sont à 2, ça veut dire que ils vont continuer à croître pendant 30 ans. 20 ans. Une génération indienne, je ne sais pas quelle est sa durée.
Ils sont combien ? C'est les plus nombreux, 1,4 milliard.
Les plus nombreux, ils sont 1,4 milliard et quelques dizaines.
Ouais,
et quelques dizaines de millions.
Bon. Les Chinois, ils étaient 1,2 milliard, ils descendent. On dit qu'ils sont peut-être même déjà en dessous du milliard.
Oui, ils sont peut-être en dessous d'1,3 milliard.
Oui, 1,3 milliard.
Sûrement, on ne sait pas exactement.
Voilà. Donc, ça veut dire. Alors, si un pays, c'est en 30 ans, je prends en 30 ans, d'après ce que vous venez de dire, l'Inde est toujours à 1,3 milliard ou 1,4 milliard, et l'autre, il est à 900 millions. Ça crée quand même une belle différence.
Tout à fait. Tout à fait. Alors, on peut nuancer en disant que la Chine, avec ses 1,3 milliard et quelques, et les États-Unis avec 3,5, avec 350.
Oui, arrive à faire la même chose.
C'est quand même pas la même chose. Mais ça jouera forcément à long terme.
Oui, quand même, parce qu'on pense au niveau des continents, au niveau de tout ça, parce que l'Europe, par exemple, est en train de s'effondrer démographiquement. Bon, l'Afrique, elle, se va, alors au moins pour 30 ans, va continuer, là, vous viens de vous expliquer. Bon, ça veut dire que de toute manière, le déséquilibre va être de plus en plus fort et accentué entre une Afrique qui a une population importante et nous qui avons une population qui diminue sans cesse.
On a parlé de l'Inde, d'un certain nombre de pays où la culture religieuse avait un certain poids, même en Europe. Est-ce qu'aujourd'hui, ou la religion disait...
Oui, croissez, multipliez.
Croissez, multipliez, faites des enfants. Est-ce qu'aujourd'hui, la dimension religieuse joue encore un rôle, ou finalement...
Alors, à mon avis, non, sauf pour des raisons indirectes. Alors, pourquoi non ? Alors, je dis chaque année le rapport des démographes algériens, et ils commencent à s'excuser pendant une page, en disant, nous allons parler d'une baisse de fécondité, nous allons parler des limitations de naissance, le Coran ne dit rien, alors ils prennent bien leurs précautions, le Coran ne dit rien à ce sujet, nous sommes complètement libres d'eux, etc. Ils sont obligés quand même de prendre des précautions. Cela dit, dans la plupart des pays musulmans, j'allais dire qu'ils se développent moyennement, la fécondité baisse, pour les mêmes raisons qu'ailleurs. Les gens vivent en ville, les gens perdent moins leurs enfants. Bon, et ce qui leur manque, c'est des retraites confortables. Est-ce qu'on les aura en France pendant longtemps? Je ne sais pas. Mais il se passe la même chose qu'ailleurs. On a parlé des migrants tout à l'heure. La Tunisie, depuis très longtemps, a une politique démographique très prudente. Bourguiba le disait déjà, donc Bourguiba n'est plus là depuis longtemps. Au Maroc, c'est venu... Plus tardivement, mais enfin, quand même, c'est venu assez vite. Et quand j'ai commencé à rassembler les éléments pour ma thèse, je me portais justement sur la fécondité au Maghreb. Et ils avaient à ce moment-là, mettons, 3 enfants dans des villes et 15 enfants dans des campagnes. Et aujourd'hui, il y a 2 enfants partout. Et peut-être un peu, sûrement moins, je n'ai pas le dernier chiffre en tête, et sûrement moins aujourd'hui. Donc la religion, et si on pense à l'islam, ne joue pas beaucoup.
Par rapport à ce qu'on disait au début sur quand vous créez une famille, ben c'est difficile en ville parce que ça coûte cher, et il faut créer, on ne trouve pas l'appartement voulu, on n'a pas, il faut payer la crèche, il faut payer tout ça. Là, quand vous êtes effectivement dans des pays en développement, le problème n'est pas le même parce que vous pouvez vous étendre sans problème.
Absolument.
Donc, ça veut dire que les pays en développement ont quand même un avantage concurrentiel, je dirais, dans ce domaine. Dans le domaine démographique, ils peuvent continuer à progresser. Alors que les autres, les contraintes de la vie font que c'est très difficile. On revient au problème économique sur l'Afrique, c'est que tout le monde sait qu'aujourd'hui, le problème de l'Afrique, compte tenu du nombre d'enfants dans les familles africaines, c'est de les nourrir et de les former. Hein.
Alors, c'est des
formes. C'est un problème majeur.
Ça coûte le plus cher et qui est le moins bien fait.
Ça coûte très cher et c'est le moins bien fait. Et là, c'est là où va jouer l'Afrique. L'Afrique du futur. Enfin, le différentiel entre les différents pays d'Afrique va se jouer sur cette partie-là, la capacité de formation et de nourrir les jeunes. De manière à ce qu'ils arrivent dans les meilleures conditions possibles à l'âge adulte.
Alors, de formation, c'est absolument évident et c'est ce qui coûte le plus cher. Jusqu'à présent, le problème alimentaire a été masqué parce que les importations sont bon marché. C'est-à-dire le blé ukrainien, le blé français. Le blé français, c'est presque fini maintenant. Et le soja brésilien. Tout ça, ça arrive en Afrique à bas prix. Et des gouvernements se sont un peu reposés là-dessus. En disant pourquoi dépenser de l'argent pour ces bouseux de la campagne, et il suffit d'apporter. Donc il y a eu des émeutes urbaines.
Oui.
Et il y a un mouvement au moins intellectuel, je ne sais pas s'il est vrai à la base, il y a un mouvement au moins intellectuel dont les colloques africains commencent à dire il faut dépenser pour l'agriculture, il faut former les agriculteurs. Ça commence à se dire. Est-ce que ça se fait? Je ne sais pas.
Donc, si on résume un peu notre discussion, là, parce qu'on arrive à la fin de cette sympathique émission, et merci parce que vous nous éclairez sur beaucoup de choses dans un domaine qui est un peu connu en définitive, il y a quand même quelque chose de fascinant, c'est de voir que, en définitive, dans le monde entier, parce que bon, il y a une tendance évidente, c'est que plus les conditions de vie de la population s'améliorent, et moins elle fait d'enfants. Moi, c'est ce que je retiens comme phénomène majeur. Et donc, les civilisations les plus avancées, comme l'Europe, par exemple, sont celles qui ont le moins de chances de s'en sortir au point de vue démographique, parce que de toute manière, elles feront forcément moins d'enfants que les autres. Cette évolution économique, ces ruptures économiques qui font que une zone du monde était la zone la plus importante et puis c'est une autre qui prend le relais, en définitive, c'est parce que la zone la plus importante génère en elle-même les raisons de sa chute.
Tout
par
à
la
fait.
Démographie,
mais
c'est bien ça.
C'est encore pire en Asie orientale.
Oui. Alors ça, c'est encore plus inquiétant parce que c'est la zone du monde qui est actuellement en train de prendre le pouvoir. Donc elle a déjà en elle-même les germes de sa chute. Je crois qu'on peut retenir, pour nos auditeurs, retenez que ce sont des tendances lourdes. Hein. Vous disiez tendances, on parle à 30 ans, hein, donc c'est des tendances très lourdes. On peut voir clair, on voit très clair, parce que 30 ans c'est énorme de pouvoir dire à 30 ans, voilà comment ça va se passer. Mais du même coup, eh bien, il est peut-être temps quand même que dans les réflexions qui sont faites par les uns et par les autres, on prenne en compte ces phénomènes terribles, ces phénomènes lourds, on les prenne en compte parce qu'ils vont impacter notre vie future, ils vont impacter nos échanges futurs, et si on ne le fait pas, on va être complètement dépassé par des choses qu'on ne maîtrisera pas. Donc, oui, la démographie est un facteur essentiel pour l'analyse géopolitique de notre futur.
Mais effectivement, quand vous avez dit, Alain Juillet, au tout début de cette émission, que c'est un sujet dont on ne parle jamais, et finalement, on vient de se rendre compte par cette émission que c'est central, c'est même civilisationnel.
Ah oui.
Alain Juillet posait même la question, est-ce que l'humanité va disparaître? Bon. Et peut-être se rapprocher un tout petit peu plus des sujets d'actualité, ne serait-ce qu'en France. On peut peut-être conseiller à nos hommes politiques, quand ils parlent des retraites en France, de s'entourer de démographes. Ils auront peut-être une ouverture d'esprit et un éclairage et un éclaircissement de la société, de la situation. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous dis à bientôt pour une prochaine émission, tous les vendredis à 17h sur Open Box TV. Merci. Au revoir.